お先、お先。
Je ne pense pas qu'on voulait avec Alain Roux.
Bonsoir, clôture ce week-end à Montreux en Suisse du 13e sommet de la francophonie. Parmi les retombées, la RDC a été confirmée pour organiser le 14e sommet en 2012. Quelles sont les autres recommandations de ce sommet et que gagne la RDC en tant que membre de la francophonie? Qu'est-ce qui a motivé le choix de la RDC pour l'organisation du prochain sommet? Nos invités dans cette émission sont Séraphin Wege, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il a participé au 13e sommet de la francophonie à Montreux. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Isidore Ndaiwel, historien. Il a été l'un des directeurs de langue et de l'écrit à la francophonie de 1999 à 2004. Il est en ligne. Professeur Ndaiwel, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marie Infantoumey, promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation basque, structure qui travaille en partenariat avec la francophonie et qui a comme vocation la promotion des langues nationales à côté du français. Monsieur Infantoumey, bonsoir. Vos réactions, nous les avons déjà, comme d'habitude. Mazina Nguia Bertin de Tikwito Bandundu, la RDC doit une fois de plus se réjouir du choix porté sur elle pour organiser le 14e sommet de la francophonie en 2012. C'est une chance qui lui est accordée afin de bien préparer son intégration politique et économique en pleine mondialisation. Il est à Guémonga de Bouillon en province orientale. Dans deux ans, la RDC, qui affronte d'autres priorités telles que les élections et d'autres réalités sociales, va-t-elle disposer de suffisamment de moyens pour organiser le 14e sommet de la francophonie? Merci de nous suivre partout au monde. Sur RadioCapu.net, bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Clôture dimanche dernier à Montreux, en Suisse, du 13e sommet de la francophonie. Parmi les retombées, la RDC a été confirmée pour organiser le 14e sommet en 2012. L'un des moments forts de ce sommet était la réélection du président Abou Diouf au poste de secrétaire général de la francophonie pour un prochain mandat de 4 ans. On se souvient qu'il est à la tête de cette organisation depuis 8 ans. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Martin Sebujangue. Bonsoir Martin.
Oui, bonsoir Alain.
Vous étiez sur place à Montreux où sur l'organisation du prochain sommet qui a été confié à la RDC en 2012. Quelles sont les autres résolutions, Martin?
Oui, les autres résolutions, il y en a eu effectivement, et c'est d'abord l'admission de 5 nouveaux États observateurs à l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de la Bosnie-Herzégovine, les Émirats arabes unis, l'Estonie, le Monténégro et la République dominicaine. Et donc l'Organisation internationale de la francophonie compte désormais 75 États et gouvernements, dont 56 membres et 19 observateurs. À l'issue de ces travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté également la déclaration de Montreux et 9 résolutions. Dans la déclaration de Montreux, on peut lire notamment la décision des chefs d'État et de gouvernement à consolider la place et la visibilité de la francophonie dans la gouvernance mondiale. Ils ont lancé un appel à une réforme urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Enfin, en marge du sommet, il y avait certainement d'autres aspects sur place à Montreux, lesquels par exemple?
Et bien entendu, il faut signaler que durant une semaine, un grand nombre d'activités, notamment des activités culturelles, ont été offertes au public au village de la francophonie à Montreux. À travers différents stands érigés à l'occasion, la francophonie a fait découvrir différentes facettes des pays qui partagent la langue française. J'ai noté par exemple un stand de la RDC où on a pu découvrir l'art congolais. J'ai aussi vu un stand du Burundi avec une exposition du café burundais. On a noté aussi des stands des associations et organisations non gouvernementales qui travaillent dans différents domaines en Afrique ou ailleurs.
Alors Martin, je vous accorde juste un mot pour terminer avec vous par rapport à cet entretien.
Oui, je dirais juste que la Suisse qui vient d'organiser ce sommet a lancé une initiative. En effet, il s'agit d'un projet de créer un réseau d'excellence des sciences et d'ingénieurs de la francophonie. L'objectif est d'instaurer une coopération scientifique entre les différentes universités francophones.
Merci Martin, je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial à Montreux. Monsieur l'ambassadeur Séraphin Gouet, je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant du chef de l'État, vous avez préparé à ce sommet. D'abord, pour commencer, juste un mot par rapport à l'ambiance qui a régné à Montreux.
Oui, merci. Je dois dire tout de suite que l'ambiance qui a régné à Montreux était une ambiance cordiale, digne de pays nobles et membres de la grande famille de la francophonie. Du début à la fin, c'est cet accueil chaleureux organisé, il faut le dire, par le gouvernement suisse dans des conditions plus ou moins difficiles dans la mesure où, lors du dernier sommet du Québec, comme vous le savez, en 2010, c'est le Madagascar qui était supposé accueillir le sommet de 2010. Du fait des événements malheureux intervenus au Madagascar, c'est la Suisse qui s'est vue obligée très rapidement de prendre en charge la délocalisation de ce sommet. En dépit de ce caractère plus ou moins impromptu, l'accueil et l'ambiance étaient vraiment très cordiales et fraternelles.
Alors, quelle est votre analyse par rapport à ces différentes recommandations ici de ce sommet que nous venons de suivre tout à l'heure?
Bon, disons que ces recommandations et déclarations traduisent en fait, si vous voulez, les défis que les pays membres ont pu identifier ensemble, mais aussi l'exigence de solidarité dont ils se sont convenus pour essayer de se mobiliser ensemble et faire avancer la cause de l'espace francophone.
Mais il y a quand même certains observateurs, monsieur l'ambassadeur, qui ont noté que certaines questions auraient été éludées par l'organisation pour ne pas mécontenter les autres États, notamment les États africains, en matière de droits de l'homme, de liberté d'expression, ainsi de suite.
Non, disons que aujourd'hui, il est essentiel de savoir que la francophonie réunit certes les pays ayant la langue française en partage, mais en même temps, c'est un espace d'intérêt, un espace politique, un espace d'un certain nombre de pays qui s'identifie d'abord comme ayant une même identité culturelle et en même temps une même identité d'intérêt. Alors, cela dit, de façon générale, aujourd'hui, il suffit de reconnaître que, si vous voulez, les failles en matière de droits de l'homme, on les retrouve partout.
Est-ce une façon de justifier la question des droits de l'homme en RDC?
Non, je voudrais simplement dire que les failles, on les retrouve partout, mais que le plus important, c'est que, justement, la francophonie, l'espace des États francophones bâtit sa mobilisation sur ces valeurs-là, sur la détermination de promouvoir ces valeurs-là. En d'autres termes, la situation, la promotion, le combat pour le droit de l'homme ne sera jamais un État définitif. C'est un processus pour cela tous les jours.
Alors, avant de donner la parole aux autres intervenants, monsieur l'ambassadeur, un mot sur la pratique du français, quand même en RDC. C'est vrai que la RDC n'est pas le deuxième grand pays francophone, mais dans la pratique, le français pose quand même certains problèmes.
Non, le français ne pose pas de problème, bien au contraire. C'est ce qui justifie précisément la mobilisation des États francophones autour de l'idée de la diversité culturelle. Il est clair que depuis 20 ans, il y a une tendance à penser que, compte tenu du fait que l'anglais mobilise de plus en plus de pays, compte tenu du fait que l'anglais devient de plus en plus perçu de plus en plus comme une langue technique, financière, etc., que le français serait en difficulté. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'en profite simplement pour vous dire que parmi les résolutions, justement, il a été confié à l'Organisation internationale de la francophonie de tout mettre en œuvre avec la contribution des États pour déployer toutes les stratégies nécessaires à la préservation et à la promotion de cette langue. D'ailleurs, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, en marge justement du sommet de 2012, dès l'année prochaine, on va assister à la réouverture des centres culturels français qui étaient, il faut le dire, des vecteurs de la science, faut pas oublier que, jusqu'à preuve du contraire, nos diplômes sont décernés en français, nos capacités sont évaluées partout, nous allons d'abord en français. Donc, non, la langue française n'est pas en difficulté, bien au contraire, il nous appartient en tant qu'espace, il nous appartient en tant que Congolais participant à l'espace francophone, de nous battre pour cette valeur de la diversité culturelle.
Professeur Isidore Ndayuel, vous êtes historien, ancien directeur de la langue et de l'écrit à la francophonie de 1999 à 2004. Professeur, comment vous avez accueilli le 13e sommet de la francophonie à Montreux?
Oui, je suis bien dans quelles conditions. Mais par contre, je suis très très heureux d'apprendre finalement la confirmation de la tenue du prochain sommet, c'est-à-dire le 14e à Kinshasa. C'est vraiment une grande nouvelle. Également, je considère que c'est une grande victoire de la diplomatie congolaise.
Professeur, merci. Si vous êtes à côté d'une radio, prière de la fermer parce que ça produit des effets, Larson, des effets indésirables aux oreilles. Merci, professeur. C'est une grande victoire pour la diplomatie congolaise. Mais nous parlions tout à l'heure, professeur, du français même. Certains observateurs notent qu'avec les problèmes que connaît l'éducation au Congo, la scolarité, il y a des intellectuels qui terminent leur cycle avec beaucoup de problèmes dans la pratique de la langue française aussi.
Mais cette situation n'est pas unique, car au Congo, partout, on déplore le fait qu'il y a un certain niveau, baisse de niveau, au niveau de la langue, de l'apprentissage de la langue française, c'est pas nouveau. Et on a parlé des difficultés de l'orthographe française. Mais je suis très heureux de l'explication donnée par l'ambassadeur Nguyen. Je pense que le français se porte plutôt bien à Kinshasa et au Congo. C'est tout de même une très grande communauté francophone et une grande communauté francophone d'avenir, puisque notre population est essentiellement jeune. Donc de ce côté-là, au contraire, nous nous situons aux avant-postes de l'évolution de la langue. Moi-même, j'ai été pendant 4 ans le responsable de la langue française dans le monde en tant que directeur des langues et de l'écrit. Et donc j'ai été remplacé à ce poste par un autre compatriote, Julien Kilanga, pendant quelques années, ce qui démontre tout de même qu'on nous a accordé une fonction de choix dans l'évolution et l'extension de la langue française.
Professeur, on note depuis un certain temps l'intégration de la diversité culturelle dans l'espace francophone, mais est-ce que cela contribue-t-il à la consolidation du français ou de la langue française?
Mais précisément, nous avons très bien dit, et vous avez bien voulu rappeler la fonction que j'occupais. J'étais le directeur des langues au pluriel et de l'écrit. Donc des langues, donc en francophonie, nous croyons beaucoup à la langue française, mais également à toutes les langues que nous appelons les langues partenaires, c'est-à-dire toutes les langues qui cohabitent dans une grande convivialité avec cette langue française. Et c'est essentiellement nos langues africaines. Et donc, le choix d'insister et de prôner la diversité linguistique est un choix tout à fait raisonnable et qui nous convient très très bien en Afrique. Donc nous sommes très contents au Congo de promouvoir à la fois la langue française, qui est non pas une langue congolaise, mais une langue du Congo, et d'autre part de promouvoir également les langues spécifiquement congolaises, notamment nos 4 langues nationales.
Professeur, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des analystes qui notent que la plupart des États francophones, surtout africains, ne sont pas les meilleurs élèves en matière de droits humains.
La démocratie n'est pas une recette, les droits de l'homme non plus ne constituent pas des recettes prêtes à porter. Je pense qu'il y a une saine évolution qui se réalise dans ce domaine, et donc on va vers une situation de plus en plus édifiante, de plus en plus intéressante. Au demeurant, il faut bien dire qu'il existe les droits de l'homme et les droits de l'homme. Donc, n'imaginez pas que partout ces droits de l'homme se présentent dans les mêmes conditions et de la même manière. Si on considère le point de départ, c'est-à-dire les difficultés qu'on avait il y a quelques années, on peut constater avec satisfaction les progrès énormes qui ont été réalisés.
Monsieur l'ambassadeur Séraphin Ngouaïz, il y a cet auditeur Malonga Koubali, d'Abandon Deauville, qui dit « Depuis que cette organisation existe, quelles sont les traces perceptibles de développement en RDC ? En d'autres termes, que gagne la RDC en tant que membre de la francophonie ?»
Oui, disons que de façon générale, le professeur vient d'en donner une large démonstration. Ce que gagne la République démocratique du Congo en tant que membre de la francophonie est divers. On peut le retrouver sur plusieurs plans. Premièrement, nous gagnons d'appartenir à un espace culturel, mais aussi politique, qui nous permet, sur certaines questions, de bénéficier de causes communes. Par exemple, aujourd'hui, parmi les grands défis que rencontre l'humanité, dans lesquels fait face notre pays, c'est la question du réchauffement climatique et la question de la diversité biologique. Sur ces deux plans, par exemple, la République démocratique du Congo, avec les pays, avec certains pays de l'Afrique centrale, gérons à nous-mêmes 2 millions de kilomètres carrés de forêt, par exemple. Et en tant que deuxième poumon du monde, après l'Amazonie en termes de conservation, en termes de capacité, si vous voulez, forestière, nous avons besoin des compensations appropriées pour permettre à nos peuples riverains notamment, à nos peuples qui vivent tous les jours du bois et du champ, etc., de bénéficier des moyens pour leur survie. Aujourd'hui, un tel combat, on ne sait pas, on ne peut pas le gagner seul. Qu'aujourd'hui la francophonie prenne ça comme le sien aussi, ça, c'est un bénéfice pour le Congo de voir sa cause être amarrée dans la cause d'un plus grand nombre. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des bénéfices tout aussi importants. Je ne sais pas si vous savez combien de fois la France est intervenue dans ce pays, même dans le cadre de notre processus de paix. Il y a peu d'années, vous rappellerez de ces opérations Artemis, etc. Ces opérations-là sont avant tout motivées par le fait que la France se reconnaît en vous. Le Congo, ne l'oubliez pas, est aujourd'hui pratiquement en passe de devenir, s'il n'est pas dans l'entretemps, le premier pays francophone du monde par la démographie. Et donc, il se développe des solidarités qui ont donné leur preuve dans le passé avec la France, mais aussi avec les autres pays francophones.
La réalisation me signale que Jean-Marie Ntantoumé est en ligne. M. Ntantoumé, vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Alors, comment vous avez perçu la participation de la RDC à ce 13e sommet de la francophonie?
Bon, comme l'a dit le professeur Ndaïwel, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ça fait longtemps que le Congo a cherché à organiser la francophonie, mais pour des raisons politiques, ça a souvent manqué. Comme maintenant, la diplomatie sous la direction du président Kabila est réussie à obtenir que la francophonie tienne sa prochaine réunion ici, c'est une très bonne chose, mais je souhaiterais que cette francophonie ne puisse pas être beaucoup plus seulement politique et politicienne. Parce que quand on parle de francophonie, on entend d'abord la langue française. J'aimerais que, avant la tenue de cette réunion, que le pays puisse tout faire pour que l'enseignement de la langue française puisse être amélioré, parce qu'aujourd'hui, il est malheureux de constater que certains aînés qui n'ont pas eu de titre de licencié ou de docteur puissent écrire et parler le français mieux que des licenciés d'aujourd'hui. Donc, il est question que, quand les autres confrères parlant le français viendront ici, trouve parmi les Congolais de bons locuteurs de cette langue. Donc il faudrait un effort du côté de l'enseignement de cette langue, et aussi bien du point de vue grammatical, stylistique, que du côté de l'accent. Parce qu'il ne faut pas, même si la langue emprunte l'accent de l'endroit, mais qu'on puisse parler une langue qui ressemble au français au lieu d'être le français. Et j'aimerais que tous ceux qui sont des partenaires à la francophonie, notamment notre association, le BAC, Bureau d'action des veilles culturelles, puissent être pris en compte dans la préparation, que ce ne soit pas une affaire seulement du politique, mais que ce soit une affaire du culturel. Parce que c'est avant tout la culture. Voilà notre souhait, tout en félicitant le chef de l'État d'avoir réussi à obtenir cette tenue à Kinshasa.
Que la francophonie soit également une affaire culturelle, Jean-Marie Ntantoumey, beaucoup de Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment se demandent quels sont les bénéfices que gagne la RDC en étant membre de la francophonie.
Le bénéfice, c'est que d'abord, là, c'est le pays qui a amené la démocratie dans le monde. Quand il y a eu cette guerre du 14 juillet qui est célébrée aujourd'hui comme une grande date en France, mais c'est grâce à la France qu'aujourd'hui dans le monde, il y a un peu de démocratie. Et pour le Congo, malgré l'expérience malheureuse de l'opération Turquoise, la France s'est rattrapée par l'opération Artemis. Et puis, c'était le cadre d'une grande diplomatie. C'est pourquoi d'ailleurs les pays occidentaux qui ont compris ont des centres culturels partout. C'est par la culture qu'on organise la diplomatie discrète. Les forums culturels sont des grands lieux de la diplomatie. Et que le Congo, qui sera à la première année de l'élection du président qui sera élu pour ne pas me répéter en 2011, puisse organiser cette activité, mais c'est un grand bénéfice. Donc, se dire que ça permettra d'abord, il y aura aussi le monde des affaires, parce qu'avec la francophonie qui se tiendra ici, il y aura des délégations qui viendront, les hôtels auront de la clientèle, les avions auront de la clientèle, et tout le monde pourra trouver quelque chose à renforcer sur l'économie, pourvu que les hommes d'affaires congolais puissent saisir cette occasion pour faire de grandes affaires. Donc, je pense que le peuple congolais trouvera son compte pourvu que le ministère des Affaires étrangères, de la culture et des arts, de l'EPSP et autres, puisse bien organiser tout le monde pour que ce soit une participation totale de la population. Que ce ne soit pas une chance seulement des membres du gouvernement qui vont se réunir au Grand Hôtel. Ce n'est pas ça la participation de la population.
Merci Jean-Marie Ntantoumey. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, juste rappeler que Dialogue entre Congolais parle ce soir de la clôture ce week-end à Montreux en Suisse du 13e sommet de la francophonie. Parmi les retombées, la RDC a été confirmée pour organiser le 14e sommet en 2012. Quelles sont les autres recommandations de ce sommet et que gagne la RDC en tant que membre de la francophonie et qu'est-ce qui a motivé le choix de la RDC pour l'organisation du prochain sommet? Avant de poursuivre, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Dans une conférence de presse, le président Joseph Kabila a exprimé sa satisfaction quant au choix de la RDC. Pour le chef de l'État qui a participé personnellement au sommet de Montreux en Suisse, le rendez-vous de Kinshasa ne sera pas seulement celui de la RDC, mais de toute la région de l'Afrique centrale qui ne manquera pas d'apporter son appui. Le président Joseph Kabila est au micro de Martin Sibujangwe, notre envoyé spécial à Montreux en Suisse.
Je dis merci à tous les pays, tous les États membres de la francophonie pour avoir porté des choix sur la République démocratique du Congo pour l'organisation du prochain sommet, le 14e, à Kinshasa. Ça a toujours été le souhait et la volonté du peuple congolais depuis 1990. Aujourd'hui, c'est chose faite. Surtout que la République démocratique du Congo est sur la voie de la consolidation de la paix, de la stabilité et bien sûr la sécurité, principalement la frontière est de notre pays. Du sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le pacte que le Congo qui organise, il y a aussi la région de l'Afrique centrale, la région de Grand Lac, et certainement ça sera avec l'appui et la solidarité de tous.
Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'est dit satisfait de ce choix. Selon Abou Diouf, la RDC mérite cela vu son poids en tant que l'un des pays membres les plus importants de l'espace francophone. On écoute Abou Diouf au micro une fois de plus de Martin Sebujangwe, notre envoyé spécial à Montreux.
Sur le plan géopolitique, quand je regarde la francophonie, je me suis rendu compte que la seule région de la francophonie qui n'avait pas encore eu de sommet, c'est l'Afrique centrale. Et pour moi, d'abord, pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la région de l'Afrique centrale, je trouve que c'est très important que nous ayons ce sommet. Surtout que, comme le président l'a dit tout à l'heure, la République démocratique du Congo est l'un des États les plus importants de la francophonie. Je n'entrerai pas dans les discussions pour savoir si la France est plus peuplée ou si c'est le Congo qui est plus peuplé. Disons simplement que c'est l'un des pays les plus importants. Et vraiment, moi, j'ai constaté, en lisant les journaux congolais, en fréquentant le cadre congolais, que vraiment ce pays était vraiment un pays militant à 100%, à 200%, je devrais dire, de la francophonie.
Séraphin Gouez, je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant du chef de l'État. Vous venez de suivre le président Kabila et le président Diouf. Le président Kabila insiste sur la stabilité, la sécurité. Est-ce que ces éléments ont-ils suffi pour motiver au choix de la RDC pour l'organisation du prochain sommet de la francophonie?
Oui, disons que les deux interventions sont finalement complémentaires. Il faut avouer que la construction de la paix, la construction de la démocratie, ainsi que la construction de l'état de droit par le respect et la promotion des droits de l'homme, voilà le creuset, voici un ensemble de valeurs que prône l'espace francophone. Aujourd'hui, il est clair que le choix de la République démocratique du Congo pour abriter ce sommet, c'est un choix qui est en effet porté, qui est en effet motivé, qui a en effet comme soubassement le constat. En effet, la République démocratique du Congo a restauré, a créé un espace qui permette la restauration de la construction de la paix et de la démocratie, tout ce que j'ai dit. C'est important aussi de dire qu'il n'y a pas que ce paramètre-là. Il n'y a pas que ce paramètre-là, comme le président Abdou Diouf l'a reconnu. Ensuite, du fait que c'est le constat d'une normalisation dans la marche des affaires de l'État qui est intervenue dans ce pays, il y a le fait que c'est depuis les années 90 que le Congo est en attente de l'organisation de la francophonie. En plus de cela, le sommet de la francophonie est une rencontre dynamique qui va d'un continent à l'autre. Et il faut reconnaître que la région de l'Afrique centrale, le président vient de la préciser aussi à juste titre, la région de l'Afrique centrale n'a en effet jamais connu le bénéfice de l'organisation d'un tel rendez-vous. C'est donc non seulement le constat d'une normalisation dans la marche des affaires de l'État intervenue dans notre pays, mais surtout la restauration des valeurs que défend la francophonie, qui ont motivé au premier chef le choix de la RDC. Mais deuxièmement, vous avez le fait que c'est depuis les années 90 que nous sommes en attente de l'organisation de ce sommet, et enfin, le sommet de 2012 à Kinshasa va être également le sommet de toute la sous-région de toute l'Afrique centrale.
Professeur Isidore Ndaïwel, je rappelle que vous êtes historien, ancien directeur de la langue et de l'écrit à la francophonie de 1999 à 2004. En plus des éléments énumérés, énoncés par le président Kabila, le président Diouf dit que quand il côtoie les intellectuels congolais, quand il lit les médias congolais, il sent que la RDC devrait absolument organiser ce 14e sommet. Cela suffit-il, professeur?
Je crois que les éléments avancés sont des éléments extrêmement importants. Je voudrais ajouter un troisième élément qui est d'ordre historique. Et lorsqu'on est informé de l'histoire des sommets, on sait que lorsque les sommets ont commencé à venir en Afrique, les sommets auraient dû d'abord se tenir au Congo, c'est-à-dire à l'époque au Zaïre. Le président Mobutu avait sollicité que le sommet se tienne d'abord au Zaïre. Et à l'époque, Abdou Diouf lui-même était président du Sénégal. Il sera remarqué à Mobutu qu'il était mieux d'abord que le sommet de la francophonie se tienne dans le pays de Léopold Sédar Senghor. C'est ainsi donc qu'il y a eu le premier sommet africain en 89 à Dakar et que la décision avait été prise tout de suite que le second sommet africain se déroulerait à Kinshasa. Et donc voilà pourquoi en 91 le sommet aurait dû se tenir à Kinshasa. Mais pour des événements bien connus de Lubumbashi, l'épisode dit du massacre des étudiants, ce sommet n'a pas eu lieu. Et donc la décision formellement avait été prise qu'il y ait un sommet à Kinshasa à l'époque. Donc nous nous trouvons là 20 ans après. C'était tout à fait normal. C'est une question de justice, c'est également une question de valorisation d'une décision ancienne, surtout que dans l'Afrique centrale, il n'y avait jamais eu de sommet jusqu'ici. Il était tout à fait normal que ce sommet se tienne à Kinshasa, et je suis content, donc, et satisfait et heureux que la décision ait été prise dans ce sens. Donc je voulais ajouter cet élément.
Professeur Ndayuel, il y a deux auditeurs, Ndaora César qui est à Bounia en province orientale qui dit « Ce choix de la RDC pour l'organisation du prochain sommet doit une fois de plus l'interpeller pour qu'elle se responsabilise davantage. Adrien Lobakwe Perro de Kananga au Kassai occidental, tant que la RDC ne cherchera pas à s'imposer sur le plan international à travers sa politique étrangère et son économie, elle ne gagnera rien de l'organisation du prochain sommet en 2012 sur le plan international, ce sont les intérêts qui comptent et non l'amitié, professeur Ndayuel.
Mais tout à fait, nous allons dans le même sens. Le sommet a plusieurs retombées. Il y a d'abord des retombées d'ordre politique, des retombées d'ordre économique et même des retombées d'ordre culturel. Sur le plan politique, c'est vraiment le temps fort de l'affirmation et du rayonnement d'un pays comme le nôtre, surtout qu'il sort de plusieurs décennies de remue-ménage politico-militaire. C'est donc vraiment l'entrée par la grande porte à la mondialité. Donc c'est un élément important. Et il faut dire que la présence de 70 chefs d'État à Kinshasa, et un millier de journalistes et tant d'autres personnes qui viendront ici, constituera véritablement sur le plan politique un temps fort. Mais sur le plan économique, il faut rappeler que le sommet, c'est une opportunité pour qu'il y ait un coup de fouet à la politique nationale, la politique du chef de l'État, de la modernisation des infrastructures. Parce qu'à cette occasion, les bailleurs de fonds ont l'habitude de donner un coup de main pour construire ceci, arranger cela, les services de télécommunications et autres. Des sommets comme Cotonou a pu permettre au Bénin de pouvoir bénéficier des hôtels qui ont été construits pour le sommet. Et après le sommet, ces infrastructures restent sur place. Il faut aussi évoquer, je pense que Tantoumé l'a dit, c'est un grand coup de fouet pour le tourisme de congrès, je veux dire, parce que le sommet lui-même est précédé de plusieurs réunions, les réunions des hommes d'affaires, les réunions des maires francophones, des parlementaires, des journalistes. Donc c'est chaque fois autant de personnalités qui viendront, qui seront dans nos hôtels, qui mangeront dans nos restaurants, et tout cela génère des recettes. Et si les redevances dues à l'État sont payées correctement, l'État est tout son compte. Alors sur le plan culturel, d'abord il faut rappeler que le sommet, c'est d'abord un moment d'interpellation des intellectuels du pays. Parce qu'il faut non seulement que le pays hôte choisisse un thème, qu'ils le sachent admettre auprès d'autres pays, mais qu'ils puissent travailler ce thème.
Merci pour
ce donner, disons, les différentes articulations de ça. Et puis aussi, pratiquement, le pays préside l'ensemble, plusieurs réunions de la francophonie. Et enfin, dans le cadre de la préparation du village de la francophonie, il va y avoir là une présentation, une exhibition de toute la créativité congolaise dans tous les domaines, le théâtre, la musique, les arts plastiques. Donc c'est un rendez-vous extrêmement important. Je trouve que après le cinquantenaire, après les élections, ce sera vraiment une marche en avant.
Merci professeur. Avant de donner la parole à l'ambassadeur Séraphin Gouy, Jean-Marie Tantounet, je rappelle que vous êtes promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC. Le professeur Ndaïwel vient de faire allusion aux élections. Il y a cet auditeur, il est Radio Nonga de Bounia en province orientale, qui dit dans deux ans, la RDC qui affronte d'autres priorités telles que les élections et d'autres réalités sociales, va-t-elle disposer de suffisamment de moyens pour organiser le 14e sommet de la francophonie? Jean-Marie Tantounet, vous êtes également acteur politique.
Oui, l'adoration des élections n'empêche pas le Congo d'avoir les moyens. Mais déjà, l'organisation de ce sommet, c'est un moyen qui est donné au Congo. Parce que la francophonie ne sera pas organisée seulement avec les moyens de notre pays. Il y a la francophonie qui a son budget. Et en plus, le fait que nous puissions organiser cette édition-là donne une force morale telle que les Congolais pourront peut-être redoubler de moyens afin que la bonne gouvernance s'améliore, et cela s'améliorant, ça fera que le chef de l'État aura aussi, sans toutefois être partisan, aura toute la force morale de faire qu'il puisse se réunir afin que lui qui a obtenu l'organisation puisse aussi l'organiser effectivement. C'est pourquoi je dis que nous devons féliciter et remercier tous ceux qui ont pris part à ce sommet, à commencer par le président Abdou Diouf, qui a fait presque la plaidoirie de la RDC, ainsi que le président français et notre président et tout le monde. C'est que nous arrivons, comme vient de le dire mon aîné, professeur Ndaïwel, au sommet. Le Congo maintenant devient la plaque tournante de l'Afrique, comme cela devrait l'être depuis longtemps. Et je pense qu'il revient une fois de plus au gouvernement de bien impliquer toute la population dans toutes les provinces à travers les associations culturelles et autres de la société civile pour que la francophonie puisse être
le peuple congolais. Jean-Marie Tantoumé, si vous êtes à côté d'une radio, prière de la fermer également, parce que ça produit des effets pas très agréables à l'antenne, mais en plus, il y a cet auditeur, Kairi Matembera de Kalemio Katanga, qui dit « La RDC doit également améliorer rapidement la liberté de la presse et le respect des droits de l'homme pour la bonne préparation du 14e sommet de la francophonie sur son sol. » Jean-Marie Tantoumé, vous faisiez déjà allusion à l'amélioration de la bonne gouvernance tout à l'heure.
Oui. Je pense que le fait que ce sommet s'organise au pays sera aussi une manière qui va servir de groupe de pression. Vous savez, lorsque vous devez recevoir un visiteur, vous êtes obligé de balayer devant votre maison. Cela va obliger nos dirigeants à tout améliorer pour donner une bonne impression, mais qui sera une vraie et non pas une fausse impression. C'est dire que la presse devra participer à la sensibilisation, à la préparation. Il va de soi que sa liberté d'expression doit être améliorée. Donc, nous pensons que la tenue de ce sommet au pays, après plusieurs années de détours, pour des raisons parfois provoquées par les Occidentaux eux-mêmes, cette fois est la meilleure que le sommet se tienne à Kinshasa. Encore une fois, bravo au gouvernement qui a réussi cette diplomatie.
Monsieur l'ambassadeur Serafin Gouège, il y a cet auditeur Kabao ici, il y a Béni en Ortivou, qui dit, je pense qu'organiser ce prochain sommet est une chose, créer des conditions pour sa réussite en est une autre.
Oui, je pense qu'il vient de dire quelque chose qui va de soi. En effet, le défi de l'organisation de ce sommet, c'est un défi important qui a plusieurs temps. Il intègre des agrégats liés à l'organisation des infrastructures d'accueil, à la prise en compte de bonnes conditions d'organisation des accréditations, du protocole. Il y a beaucoup d'aspects. Cela dit, il est important de rappeler que lorsque le chef de l'État, lorsque le président de la République a reçu, disons, le verdict de ses pairs, que c'est le Congo qui avait été choisi pour abriter le sommet de 2012, le président de la République a dit quelque chose de très important en disant qu'il estimait que le Congo recevait cette information, recevait ce verdict avec beaucoup d'humilité, mais qu'en même temps, le Congo avait conscience. C'était un défi important, un défi exigeant, mais que cette différence d'exigence était tout à fait à notre portée, dans la mesure où notre mobilisation et notre détermination ne peuvent que venir à bout d'un tel défi, dans la mesure aussi où il vous souviendra que lors des derniers rendez-vous que nous avons organisé ici à Kinshasa pour abriter des forums de même enjeu, bien qu'avec des moyens difficiles, des moyens précaires, nous avons pu les en sortir. Je profite de l'occasion pour rassurer également cet auditeur qui demandait si le contenu du temps et des moyens et qui sont à la disposition de la République, à savoir le fait que nous organisons les élections l'année prochaine et le sommet en 2010, est-ce que le Congo va s'en sortir? Je voudrais lui répondre que la normalisation dans la marche des affaires de l'État que toute la communauté internationale a constaté, a consacré, a couronné en acceptant le choix d'un tel événement au Congo, doit nous permettre désormais justement de développer les adéquations nécessaires entre les rendez-vous de l'alternance démocratique à l'intérieur du pays et ceux de notre participation aux défis que nous pose la région, le continent et le monde.
Merci, monsieur l'ambassadeur. L'émission touche pratiquement déjà à sa fin. Pouvez-vous conclure brièvement?
Ma conclusion serait avant tout les remerciements au chef de l'État, premier diplomate dans ce pays, qui a cru un jour en la possibilité, dans les atouts de notre peuple, de dépasser ces moments difficiles que nous avons traversés, de rompre avec ces moments de doute et de larmes, pour accepter et avoir la foi en la possibilité de nous restaurer nous-mêmes, de restaurer notre pays, de l'imposer sur le circuit régional, continental et mondial.
Merci, professeur Ndaïuel. Il y a cet auditeur Arnold Ombeni Mongo qui dit « Avoir les sommets déjà organisés en RDC, on croirait que notre pays est un paradis. Celui-ci risque d'être un de trop si le gouvernement ne définit pas les recommandations qui vont dans le sens de l'amélioration du social de la population. » Professeur, ce sera aussi votre conclusion.
Tout à fait. Je pense que on l'a dit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État a insisté sur le défi. Nous sommes en présence d'un défi. Et je dirais un défi à plusieurs têtes. Mais justement, il en est des peuples, des États comme des individus. Nous progressons réellement que lorsque nous sommes en présence des défis. La Terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que tous les livres parce qu'elle nous résiste. C'est la première phrase du livre « La Terre des Hommes » de Saint-Exupéry.
Merci.
Nous n'avançons que lorsque nous nous trouvons devant des défis et nous luttons pour pouvoir relever ces défis. Et je suis heureux que le peuple congolais et le chef de l'État, notre chef d'État, aient choisi de relever une fois de plus un nouveau défi.
Merci, professeur Jean-Marie. Et un temps tout mail, juste un mot pour conclure.
Pour conclure, je me réjouis au nom des amis et hommes de la culture que la culture qui est ce facteur qui unit tout le monde va enfin réunir tous les Congolais et tous les Africains autour de la francophonie et que le chef de l'État
puisse
saisir cette occasion pour cimenter l'unité et la paix du pays.
Merci.
Merci.
Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Radio Kapi.